ces ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio, épisode de novembre. Ce mois-ci, nous recevons l'animateur Mathieu Noël. Il a entamé sa deuxième saison à France Inter à la tête de Zoom Zoom Zen après de nombreuses années passées à Europe 1. Mathieu nous explique qui il est, les coulisses de son émission et notamment son travail impressionnant d'écriture, tout ça dans un esprit d'équipe bien soudé et des audiences au beau fixe. Dans la première partie Actu Débat, on revient sur l'actu radio du mois dernier, puis Julien Vigier nous fera ses carnets d'écoute avec la nouvelle matinale de France Info et le podcast La recette du thon à la catalane. On ira faire un petit tour du côté du Québec pour parler des jours de la radio, puis Rémi Bertolon interrogera le directeur de M40, une radio qui avait disparu il y a 30 ans et qui revient sur le web et en DAB+.
Des ondes Vocast, l'actu débat.
Et on attaque tout de suite avec le Zoom Actu. Alors ce mois-ci, on a eu l'officialisation que France Bleu et France 3 disparaîtraient très prochainement au profit d'une marque commune Ici. Les deux groupes publics radio et télé accélèrent donc le mouvement dans un contexte où leur futur budget ne sera augmenté par l'État que si des transformations importantes sont réalisées en leur sein. Message reçu donc par les directions, à voir ensuite si cela n'impactera pas la proximité ni les audiences des deux antennes. Dans l'actu aussi, on a eu l'officialisation du report de 2 ans de l'arrêt de la FM en Suisse. C'est désormais pour fin 2026. On le rappelle, la majorité de l'écoute là-bas s'effectue cependant déjà depuis un bon moment en numérique. En France, les démarrages sur le DAB+ continuent toujours à une vitesse soutenue, tant sur les multiplexes métropolitains que sur les multiplexes locaux et étendus. Dans une audition à l'Assemblée nationale, les représentants des radios tant nationales que locales ont d'ailleurs rappelé leur soutien au DAB tout en demandant plus de financement et aussi de sauvegarder les secteurs publicitaires protégés, notamment celui de la grande distribution. Toujours dans l'actu, le Paris Radio Show a annoncé son retour les 6 et 7 février 2024 dans un nouveau lieu, la Bellevilloise. Excellente nouvelle pour l'industrie des pros de la radio suite au Radio Tour en province. Et cette triste nouvelle pour finir, Philippe Despons de RFM nous a quittés, beaucoup trop jeune à 59 ans. Il était passé sur Europe 2, Virgin et RFM. On écoute tout de suite quelques extraits en hommage.
Il paraît que vous vous êtes levé rien que pour jouer au réveil RFM.
Oui, et d'ailleurs je suis très fatiguée, mais je suis prête à jouer.
Je dis chapeau quand même, Anne. On va débuter la journée ensemble. Je dis on parce que Julie, François, Noémie sont avec moi. Ça fait donc 2 garçons, 2 filles. Vive la parité sur RFM. Alors nous sommes le jeudi 17 mai. Aujourd'hui on fête les nectaires. C'est donc la Saint-Nectaire, mais on va pas non plus en faire un fromage. La citation du jour, on reste dans le culinaire. Je vous jure que je n'invente rien. Une huître avertie en vaut deux. C'est du Jean-Pierre Coff. Je pense qu'il avait dû en manger une qui n'était pas fraîche ce jour-là. Elle me dit, Mika sur Virgin Radio à 8h56. Et là, je vais faire un truc que d'habitude on ne fait pas. Je vais couper ça et on va se parler. Voilà. Août 1998, août 2011, ça fait 13 ans. Pour resituer, hein, août 1998, la France en bleu venait de gagner la Coupe du Monde et certains d'entre vous n'étaient encore qu'un vague désir parental. Bref, ça fait un bail et pourtant, eh ben, c'est passé en un rien de temps. 13 ans de Europe 2, le meilleur de la musique, à Virgin Radio, un max de tubes, en passant par Gravement Groove, Simple is the Best, que du rock, que de la pop, et j'en oublie, hein, parce qu'il y en a eu, eh ben, ça fait 13 ans de bonheur. Ouais, encore un truc. Normalement, j'aurais dû vous passer Chilo Green, Fuck You. Je l'ai mis un peu plus tôt. J'ai inverti parce que j'avais peur que ce soit mal compris. Et j'ai permuté avec Melissa Nkanda. J'ai fait tout ça pour vous. Ça tombe sous le sens parce que c'est pour vous que je me levais à 3h30. Hein. C'est pas pour le pognon, faut le savoir.
Nos condoléances à tous les proches de Philippe Despons. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien.
Salut Olivier, salut à toutes et à tous.
Tu es le directeur de VO2X, agence de production audio, et comme chaque mois, tu nous partages tes carnets d'écoute. Et tu t'es intéressé ce mois-ci à la matinale de France Info.
C'est vrai, c'est l'autre grand changement du service public. Vous avez sans doute suivi l'affaire été 2023. Marc Fauvel quitte la matinale de France Info après de très belles années de succès d'audience. Il y officiait avec Salia Braclia, sa complice depuis 2020. Ça marchait bien, ça marchait fort. Sauf que Marc Fauvel a pris les rênes de la rédaction d'Inter et a surtout gagné le droit de se lever un petit peu plus tard. Patrick Cohen était pressenti pour le remplacer. Patatras, ça ne se fera pas. Et pourtant, l'idée, de mon point de vue, était géniale. On raconte que France Inter avait mal vu l'arrivée de Patrick Cohen, voleur d'auditeurs, soi-disant. Bon bref, à la place, c'est Jérôme Chapuis qui commence fin août, ancien journaliste radio de RMC, RTL et Europe 1. C'est surtout en qualité de rédacteur en chef de La Croix qu'il arrive, mais on ne sait pas trop ce qu'il va donner dans un rôle d'anchorman. Alors, moi qui écoute beaucoup le matin France Info, c'est mes petites habitudes, c'est comme ça. Forcément, je suis un peu bouleversé. J'aimais beaucoup le style Marc Fauvel, à la fois dans son ton sérieux, à l'aise au micro, sympa, moqueur, bon technicien de la matinale. C'est-à-dire précis sur ses lancements, pas trop long, pas hésitant. Et Jérôme Chapuis qui ne démérite pas, je ne retrouve pas cette fluidité, je ne suis pas satisfait. C'est moins précis. Alors, il y a du sourire, on sent qu'il y a de la volonté du côté de Jérôme Chapuis, mais l'emprise sur la matinale n'est pas là. À mon goût, il ne drive pas suffisamment. Et surtout, Marc Fauvel était à la présentation des informés entre 9h et 9h30 avec Renaud Dely. Et là, l'absence de Jérôme Chapuis laisse la place à Salia Braclia, donc qui a pris les rênes de l'émission. Une fois de plus, ça sonne un peu bizarre. Marc Fauvel maîtrisait bien le ton de cette émission. Il y avait une matinale jusqu'à 9h, puis ensuite jusqu'à 9h30, qui était incarnée par Marc Fauvel. Il y a un petit changement, une fois de plus. Je trouve que cette matinale nouvelle formule, toujours d'un grand niveau, on parle quand même vraiment d'une matinale très très forte, mais elle souffre de la comparaison par rapport à l'année dernière.
Encore un peu de rodage en perspective sans doute, donc. Alors Julien, ta deuxième écoute ce mois-ci, c'est un podcast.
Rien que le titre, à la recherche du ton à la catalane. C'est Sophie Marie Laroui, SML comme on l'appelle, qui en est la voix. SML, c'est le podcast à bientôt de te revoir, aujourd'hui arrêté. C'est un personnage qu'on adore aimer car elle est à la fois comédienne, drôle sur Insta, elle écrit des bouquins, elle est scénariste. Mais surtout, elle a son phrasé, son accent, ses mots à elle. Et elle met en lumière, en fait, par la langue française, les travers de notre temps. Là aussi, nos petits trucs à nous, finalement. Et dans la recherche du ton à la catalane, elle nous invite à la méditation pendant qu'on fait nos courses. Ça dure 15 à 20 minutes. Il y a des mantras de méditation, des vrais trucs, Voilà. Mais c'est à la sauce SML. Donc, on rigole beaucoup. C'est un peu condescendant. C'est aussi pas mal référencé Génération Y, pas mal référencé Sophie Marie Laroui aussi évidemment, premier au classement sur Spotify parce que c'est très bien, parce que c'est SML donc c'était attendu. Je saurais pas dire si j'aime ou si je n'aime pas, ce qui est sûr c'est que je l'ai testé in situ pendant que je poussais mon chariot et là pour le coup c'est parfait.
Très bien, alors allez écouter vous aussi en faisant vos courses et faites-vous votre opinion. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Rémi, tu animes l'émission Un Voice Track Rémi et Jam sur plusieurs radios en France et tu es allé interroger pour nous Benoît Marimpouy, le créateur de M40 Nouvelle Génération sur le web et en DAB, 30 ans après la disparition de cette radio qui, à l'époque, repeignait la FM.
Et oui, Olivier, l'ancien réseau M40, vous connaissez cette histoire, née de la fusion entre Maximum et Métropolis. Il y avait quand même 78 fréquences, ça a été lancé en janvier 92, et au bout de 3 ans, c'est passé RTL 1, puis RTL 2. Donc, depuis cette époque, plus rien, sauf que Benoît Marimpouy s'y est intéressé. Et du coup, on peut réécouter M40 sur, alors déjà dans le sud-ouest, sur le DAB, et puis sur m40radio.fr. Alors Benoît, merci d'être avec nous. Comment ça s'est fait la reprise de cette marque M40?
Eh ben, disons que pour moi, M40, alors déjà, c'est ma radio d'ado. Voilà, il faut quand même avouer, j'avais un certain amour pour cette radio. Et pour le son, on y reviendra un petit peu après, si tu veux bien. Je surveillais un petit peu les marques qui revenaient. C'est la mode, de retour de Maximum, du retour de... Bon, il y en a plein qui reviennent. Mmh. Et j'ai vu qu'M40 n'était plus déposé au bout de 30 ans. Donc, je me suis dit, tiens, allez, hop, on va y aller. Et j'y suis allé, tout simplement.
Donc, c'était une opportunité. Et puis, toi, tu étais quand même auditeur à l'époque de M40?
Ah ouais, ouais, bien sûr, j'étais auditeur et même plus qu'auditeur puisque j'ai connu un ami journaliste là-bas près de chez moi qui était dans une locale d'M40 et on est toujours amis 30 ans après, tu vois, comme quoi. Mais voilà, j'ai vécu ça de près et pour moi, c'est une radio qui était, on va dire, sans prétention. Voilà, la table de mixage était posée sur des tréteaux. Enfin, tu vois, c'était quelque chose de très simple. Mm-hmm. C'était très artisanal et c'était la radio, voilà, la vraie radio, quoi.
M40. I love your station. Testez la différence. Bonne soirée sur M40. M40 s'écoute aussi sur ton téléphone ou ta télé avec MyTuner, RadioLine ou sur Freebox. Did you wake up
and feel? Alors, c'est une radio qui a duré seulement 3 ans. Est-ce que tu penses que les auditeurs, le grand public se souvient de M40? Est-ce que c'est une radio qui a une notoriété?
Une notoriété, oui et non. Une notoriété, ça peut aller dans les deux sens, bonne et mauvaise. Mmh. La bonne, oui, il y en a quand même quelques-uns. J'ai, Dieu merci, des retours assez sympas. Ouais, vous êtes revenus, c'est cool, enfin, etc. Et j'en ai d'autres qui n'ont pas tout à fait compris que maximum, soit devenu M40, voilà, je reçois des messages d'insultes depuis 3 ans, me disant hey, « vous avez tué Maximum et tout », alors que déjà d'une part, c'est pas la véritable histoire, et deuxièmement, moi j'ai rien fait.
Oui, toi t'es...
en l'occurrence.
T'es dans un nouveau projet. Tu t'inspires quand même du format M40, hein, quand on écoute, à l'époque, pour ceux qui connaissent pas le programme, c'était de la musique fraîche et des découvertes, c'est ce que tu essayes toi de faire sur ton antenne?
Oui, alors il y a quelques découvertes effectivement, sachant que l'époque a changé, la majorité des radios qui étaient là à l'époque ont changé aussi. Je pense qu'il a fallu rafraîchir un petit peu tout ça dans le sens où les nouveautés, les découvertes, il y a énormément de radios qui sont vraiment axées là-dessus. Mmh. Et on n'est plus tout à fait dans la même époque aujourd'hui, c'est plutôt des radios de niche. J'essaie de faire quelque chose de relativement généraliste, mais par contre, évidemment... quelque chose aussi qui s'adresse au quadragénaire et voire plus si affinité.
Ah, bien sûr, on peut t'écouter sur le web et sur différentes applis, mais t'es aussi en DAB dans le sud-ouest, côté espagnol, jusqu'à Montauban, en gros. Hein.
Ouais, c'est ça. Alors, on a essuyé effectivement, je dis on parce qu'on est quand même une petite équipe, on essuie des refus sur des dossiers en DAB. Mais c'est vrai qu'on est on est un petit peu nouvel arrivant et mmh. et avec une image peut-être pas forcément glorieuse d'il y a 30 ans, je sais pas, ça peut jouer aussi. Mais maintenant on a réussi à avoir une fréquence en frontière espagnole qui arrose jusque dans les Landes en fait. Mmh. Voilà.
L'objectif, ça serait d'avoir des fréquences en France.
Ah bah l'idée, ce serait le but. Alors moi, j'ai un passionné qui a récupéré tout le matériel d'M40 de l'époque. Tu vois la table de mixage qui fait la taille d'un camion et tout le truc. Le mec m'a dit très clairement, il est amoureux d'M40. Et si un jour on a une fréquence et un local à Paris, il veut que ça revienne à la maison, quoi. Voilà. Donc je referai le même studio pratiquement que l'époque, puisqu'il a tout remis à neuf. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, le but à atteindre, c'est effectivement avoir des fréquences en France et le top du top, ce serait évidemment la capitale.
Alors tu parlais du son justement et là, comme tu évoques le matériel, ça tombe bien. Quel était le son de M40 qui était un peu spécifique?
Ouais. Alors évidemment, ça va pas parler aux plus jeunes parce que. Depuis 20 ans, il y a de l'Omnia partout, c'est-à-dire un son à peu près équivalent sur toutes les radios, mis à part quand tu mets un autre matériel derrière, hein, évidemment. Mais à l'époque, si tu te souviens peut-être, Skyrock avait un son qui parlait un petit peu du nez, c'était le VZ40, sacré bête. Ensuite, il y avait Energy avec un son assez flat quand même, clair mais flat. T'avais Fun avec des basses qui roulaient, voilà. Toutes les radios avaient leur son. En fait, tu reconnaissais la radio. On passait tous la même chose à l'époque. Hein. C'était pas des niches. Sky passait du top 40, Fun passait du top 40, Energy pareil. Mmh. Tu reconnaissais la radio par rapport au son, en fait, tout bêtement. Il y avait un univers particulier, le son faisait partie.
Et donc, celui d'M40, c'était quoi la spécificité, du coup?
Le son d'M40, c'était un son très élargi, très spatial, quelque chose de... Le son brillait énormément. Voilà.
Merci, Benoît. On écoute M40 sur m40radio.fr en DAB si vous êtes dans le sud-ouest. C'était Benoît Marin-Pouy qui a relancé la marque et qui s'occupe aussi de promo média pour du consulting. Merci Benoît.
Des ondes vocastes.
Et d'ailleurs, M40 vient aussi d'annoncer son arrivée sur Madrid et Barcelone via le DAB+. Donc M40, ça monte. Et on va tout de suite en direction du Québec.
Des ondes vocastes.
François Carrier, bonjour.
Bonjour.
Tu es le président de l'ARC, ARCQ, l'association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Alors, on t'avait interviewé en mars dernier lors des Radio Days Europe à Prague et j'avais promis de t'accueillir à nouveau pour nous parler des jours de la radio. Alors, ils arrivent, ces jours de la radio. Ça se passe à Québec. Alors, qu'est-ce que c'est, en gros, les jours de la radio?
C'est vraiment l'événement où plusieurs stations de radio, qu'ils soient communautaires chez nous, et vous savez, communautaire chez nous, c'est une réglementation qui est très différente que ce qu'on trouve en Europe. Ce sont des stations qui ont des réglementations qui leur permettent de vendre de la publicité, mais aussi d'avoir des jeux interactifs avec leur clientèle. Et on rassemble aussi des stations de radio privées. C'est une édition, c'est notre sixième édition des Jours de la radio, d'ailleurs, qui vont avoir lieu les 10 et 11 novembre. Je vous dirais que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le rendez-vous des radiodiffuseurs au Québec, à ceux qui s'intéressent à leur programmation, aux nouvelles tendances de la radio, puis aussi de tenter, parce que nous, on est une association, donc on a des membres, de renforcer un peu leurs capacités et tenter de les aider là, à créer du contenu d'intérêt à leur communauté, à leur collectivité. Et c'est une occasion aussi pour les directeurs de stations de radio et autres artisans de la radio de trouver peut-être parfois des solutions, de partager des pratiques intéressantes, des pratiques exemplaires. Et ça réunit, il faut dire, là, une centaine, même tout près de 150 intervenants d'un peu partout. On a des gens, évidemment, beaucoup du Québec, d'ailleurs au Canada, et aussi parfois là, quelques invités là, qui viennent de l'Europe.
Alors, qu'est-ce que ça fait qu'un tel événement pour la radio québécoise soit organisé justement par eh bien, l'association des radios communautaires et pas par l'industrie privée ou l'industrie publique?
Je dirais qu'il faut bien comprendre que chez nous, on réussit, je crois, à établir des liens avec l'ensemble des secteurs d'activité et on est vraiment, je crois, très complémentaires les uns les autres. Donc, c'est clair que nous, on veut être avant-gardistes, c'est important. Comme association de radio communautaire, pour nous, le fait que nos membres ont souvent des idées qu'ils mettent en place avant même peut-être certaines stations privées. On a des membres très dynamiques, mais ça nous a permis de créer cet événement-là et aussi de faire en sorte qu'on peut, entre autres, explorer davantage. Bon, vous le savez, maintenant, chez nous, on fait face à un blocage via les médias sociaux par Meta, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Ce n'est pas possible pour l'instant, en tant que média au Canada, d'avoir accès à ces plateformes. Donc, ça nous amène des problématiques et ça, qu'on soit privé ou encore communautaire ou encore public, comme c'est le cas de Radio-Canada, ben on fait face aux mêmes défis actuellement en termes de promotion, de visibilité sur le web. Donc, ça nous permet, entre autres, de faire en sorte, avec ce genre de rencontres, de trouver des solutions, d'avoir peut-être des idées pour naviguer dans tout ça, parce que ce n'est pas nécessairement évident. Et je vous dirais, vous le savez, qu'on soit en Europe ou en Amérique, le changement, tout ce qu'amène, entre autres, les nouvelles technologies, ben il faut vraiment y faire face. Alors, c'est vraiment dans ce qui je dirais, fait en sorte que notre programmation se base sur les défis des stations de radio au Québec.
Une grande fête de la radio, en effet. Alors, toute l'industrie de la radio québécoise, et vous avez aussi de temps en temps des invités internationaux, et certains qui viennent de France. Cette année, vous recevez Franck Peloux de la radio Cassis FM à Dijon, et je crois que dans le passé, il y a eu Anne-Marie de Couvreur de Media Meeting, Wilfried Tocqueville de Sweet FM, ou encore Michel Collin de Médiatique Conseil. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir aussi ces invités qui viennent de l'étranger?
Mais surtout, je pense qu'ils nous ont aidés de parfois voir nos stations de radio un peu de manière différente. C'est-à-dire que on est toujours à la recherche de solutions, et je pense à Michel Collin, entre autres, qui est, faut dire, un collaborateur de la radio communautaire québécoise, et qui, avec nous, s'est penché sur nos stratégies parfois, des stratégies que vous employez en Europe qui n'ont peut-être pas été exploitées de la même manière chez nous au Québec. Alors, on tente de faire en sorte, entre autres, d'avoir vraiment ces échanges-là pour voir les meilleures pratiques. Et on a vu parfois pour nous là certaines stations adopter, ou même je dirais adapter certaines stratégies qui ont été présentées lors des jours de la radio et qui par la suite sont devenues vraiment aussi des succès dans nos collectivités, dans nos communautés au Québec. Donc ça là, c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs et de s'influencer de cette manière pour tenter effectivement de développer davantage nos stations de radio et peut-être d'avoir des idées qui sont quelquefois différentes, de ne pas nécessairement toujours faire la même chose.
De très beaux échanges, en effet. Les jours de la radio, c'est du 9 au 11 novembre à Québec. Si vous voulez vous y rendre, vous allez sur le site de l'ARC, ARCQ, et vous pourrez y acheter vos billets. Merci François Carrier, président de l'ARC.
Des ondes vocastes.
Rémi Bertolon, tu es toujours là. On file avec toi vers la maison de la radio. Tu es allé interviewer Mathieu Noël, qui anime Zoom Zoom Zen tous les après-midi sur la première radio de France, France Inter. C'est notre grande interview du mois.
Des ondes vocast, l'invité.
Eh oui, Mathieu Noël avec nous, et ça nous fait très très plaisir. Bonjour Mathieu, salut, comment ça va?
Bonjour Rémi, super, et vous?
Bah ouais, génial, ça me fait plaisir de t'avoir dans le podcast pour parler entre passionné et pro de radio. Alors donc toi, c'est ta deuxième saison hein, sur France Inter, t'as deux rendez-vous. À 7h57, le billet d'humour, et puis à 16h, c'est Zoom Zoom Zen, une émission qui décortique un petit peu notre époque avec des mots et des expressions. Alors quand on va sur le site de France Inter, ton émission est décrite ainsi, une heure de savoir et de bon humour, donc c'est vrai que ça donne envie.
De bonne humeur, oui, c'est ça.
Comment tu décris toi ton émission Zoom Zoom Zen, comment tu l'expliques un petit peu?
Alors comment je l'explique? Je l'explique du fait que c'est ce que je voulais faire en radio, c'est ce que j'ai toujours aimé faire. J'adore les émissions un peu hybrides. Autant j'adore déconner, mais je me satisfais pas d'une émission qui est purement humour, surtout si c'est pour la présenter tous les jours. J'ai besoin, rien que moi, donc j'imagine l'auditeur, en tout cas les auditeurs que je recherche, j'ai besoin moi d'apprendre un truc, d'en sortir quelque chose, de me sentir un peu plus intelligent à la fin, ou en tout cas un peu plus instruit. Et mais en revanche, j'ai toujours eu ce côté un peu déconnant en moi, un peu pas de côté. Et pour moi, c'est impossible de faire une émission de radio sans avoir une sorte de petite bande autour de moi, une petite famille. Et pour moi, c'est impossible de faire de la radio purement journalistique, genre parce que tous les thèmes qu'on traite tous les jours dans Zoom Zoom, on pourrait très bien les faire de manière frontalement journalistique, comme parfois d'ailleurs quand les thèmes sont plutôt graves, dans les parties interview, on est dans ce ton journalistique et sachant. Mais au quotidien, j'aime bien le plus possible essayer de faire en sorte que ça soit vraiment un mix des deux, que dans cette heure-là, déjà, si, pour moi, l'émission est réussie si elle passe vite, cette heure-là. Et si au bout de cette heure-là, on a appris un truc, en tout cas qui nous a donné envie de nous intéresser à un sujet ou même de creuser un sujet, parce qu'en une heure on peut pas faire le tour d'un sujet comme le wokisme, évidemment on n'aura pas fait le tour de la question, mais on aura avec un spécialiste quand même, on aura déjà creusé un sillon qui permettra de s'intéresser, éventuellement d'aller rechercher tel livre, telle référence, tel podcast pour en savoir un peu plus. Et donc ce qui est très important, c'est qu'aussi on ait passé un bon moment et qu'on ait rigolé durant cette heure-là.
Et donc, a priori, ça fonctionne puisque les audiences sont consolidées, hein, plus 30%, je crois, sur les chiffres qu'on a pu voir. On comprend ton projet radio, puisque en fait, quand on t'écoutait déjà sur Europe 1 dans Historiquement Vôtre, c'était un peu cet ADN, un peu culture générale, mêlé avec l'humour travaillé.
Oui, bah, ça a toujours été, même quand on remonte plus loin, avant Historiquement Vôtre, il y avait l'équipe est sauvage, avant il y avait même la petite émission que j'avais fait à midi, qui était ma première émission, qui était déjà le même ADN, c'est-à-dire que mon ADN, il change pas. Ce qui change, c'est les gens autour de moi, éventuellement l'axe général. Historiquement Vôtre, on était sur un axe historique, plus que culture G, on était vraiment sur l'histoire, on prenait des personnages de l'histoire, des périodes. Aujourd'hui, on est culture G, oui, c'est vrai qu'on est un peu sur la culture G, notamment au moment du quiz, puisque là, on peut parler de toutes les époques, mais là, l'émission, elle est plus quand même sur, non pas l'actu, parce que c'est pas l'actu du jour ou l'actu de la semaine, c'est plutôt l'air du temps, l'air du temps, c'est l'axe de la saison, mais c'est vrai que sinon, l'ADN, t'as raison, ne change pas, c'est toujours... C'est toujours ce qu'on appelle, on a trop entendu cette expression, donc j'aime plus trop la dire, mais le gai savoir, quoi. C'est vraiment le truc, ce qui me ressemble, c'est vrai, donc c'est toujours un peu le gai savoir.
Alors, si je me souviens, à l'époque, quand tu étais vraiment parti sur le projet radio, sur Europe 1, tu avais aussi des propositions télé, et il me semble que tu avais fait le choix, vraiment, de te consacrer à la radio. Ça nous avait un petit peu surpris. On ne te savait pas si passionné par ce média.
Alors, pour dire vrai, après c'est pas tant que la radio est une passion, c'est un vrai plaisir. Mmh. C'est pas tant que c'est une passion que la télé n'en est pas une. En revanche, c'est plutôt ça la différence, c'est que la télé pour moi, à part C'est à vous qui était vraiment agréable à faire, à l'époque j'avais pas conscience à quel point c'était agréable parce que je ne faisais que cette émission-là. Le côté pas de public, je faisais même plus de répètes, donc c'était plus léger. J'arrivais vraiment, clac, j'avais écrit, on avait monté et on était là autour. Moi, j'essayais de faire rire les gens autour de la table déjà. Donc après, si ça pouvait amuser les téléspectateurs, tant mieux. Mais je ne sentais pas le poids des enjeux qu'il y a en télé. Je ne sentais pas le poids de l'audience du tout. Alors que je pense que, enfin, soit parce que j'étais très jeune ou insouciant, je sais pas, mais je m'en occupais pas en fait, et ça me permettait d'être assez spontané. Après, quand j'ai vu les autres choses en télé, les autres émissions que j'ai approchées un peu, le public, la grosse machinerie, le côté un peu artificiel, forcément, hein, de la télé, je critique pas les autres émissions, c'est juste que c'est forcément, il y a des caméras, il y a un chauffeur de salle, l'artifice, on le sent plus, en tout cas, qu'à C'est à vous. Et donc, moi, ça m'a jamais plu, en fait. C'est pas quelque chose je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, l'exercice de venir faire une chronique en télé. Moi, ça ne m'amuse pas, en fait. C'est du boulot, c'est un job, mais c'est pas un truc qui me fait kiffer. Or, à la radio, même s'il y a des millions d'auditeurs, on l'oublie. Enfin, moi, j'oublie complètement. On est dans notre petit studio avec notre bande, notre invité. On crée un climat, on essaye de créer une ambiance. Et je trouve que c'est plus spontané, c'est plus vrai. Je sais pas si ça l'est vraiment. Je dis pas que c'est plus authentique que la télé. Je dis juste que ça, pour moi, qui présente l'émission ou qui fait une chronique à la radio, j'ai l'impression que c'est plus spontané, que c'est plus simple que la télé.
Ça te paraît plus naturel. Alors donc, ouais. Tu débarques en 2022 sur France Inter et Julien Vigier, dans l'équipe du podcast, qui d'ailleurs adore ton boulot, me disait que pour lui, on t'attendait vraiment sur France Inter. Et moi, je me disais que tu avais peut-être pas la carte puisque tu venais du privé. Les auditeurs de France Inter sont peut-être un peu plus, aiment pas trop l'aspect clivant. Comment toi, tu as vécu ça, ton arrivée sur la station?
Toujours avec la même insouciance dont je te parlais. c'est-à-dire que, à un moment, j'avais envie d'une autre aventure, clairement. Alors, avant, j'ai fait 14 ans quand même là-bas, parce que j'ai vraiment commencé là-bas. Donc, à un moment, j'avais fait toutes les cases. Ça faisait longtemps qu'avec France Inter, on discutait un peu, on se tournait un peu autour. Moi, on me disait, enfin, les gens d'Inter me disaient que j'étais très intercompatible, machin, et que ça serait bien que je vienne. Moi, franchement, je te cache pas que, comme tu vas le voir quand on discute comme ça, je ne minimise pas. Je n'ai aucune connaissance du milieu. Je suis pas du tout à. Tu vois, je me tiens. Enfin, je suis assez loin des audiences et tout ça. De qui fait quoi. Je suis pas très bon pour ça. Je travaille énormément. J'ai des journées qui sont vraiment énormes. Donc après, moi, quand j'ai fini, quoi. Je réécoute jamais mes émissions. Je me dis pas, tiens là, est-ce que j'ai... Je devrais, hein, peut-être professionnellement, ce serait bien de me dire là, c'était mieux comme ça. Non, je le fais pas. Je déconnecte et j'ai une vie complètement différente en dehors. Donc les médias ne sont pas ma passion en dehors du moment où je le fais. Donc pour répondre à ta question, pardon, je me suis perdu. tu disais sur être attendu à Inter. Non, les autres pensaient pour moi, mais moi je pensais rien. Je me disais juste Inter, c'est super. Il y a plein d'auditeurs. À un moment, quand tu bosses beaucoup, t'as envie qu'il y ait effectivement des auditeurs. J'avais juste une notion vague des chiffres et je me disais oui, effectivement Inter, ça marche bien. Ça marche de moins en moins bien. À un moment, j'aurais plus d'écho là-bas et peut-être rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et c'est exactement ce que j'ai eu quand je suis allé à Inter, puisque je suis venu sans prendre personne d'Europe 1. C'était un peu le deal. On s'était dit que je venais tout seul. Et donc j'avais peur. Là, pour le coup, je me suis dit, mais attends, ils vont me mettre qui? Comment je vais? Et en fait, je dois dire que Yann Chouquet, qui est le directeur des programmes d'Inter, m'a trouvé un rédac chef avec qui ça match tout à fait. Cyril Lacarrière, que tu entends dans l'émission. Mes chroniqueurs aussi, je les trouve formidables. Ils ont eu le sens du casting, je trouve. Enfin, le sens de comprendre qui allait matcher avec qui. Et c'est pour ça aussi si l'émission marche. Je pense qu'on sent les gens. C'est le retour principal que j'ai. C'est on a l'impression. Les gens me disent mais vous êtes vraiment potes comme ça dans la vie. Je dis ben oui, en fait on n'est pas potes. On passe pas tous nos. On dîne pas tous les soirs ensemble. Mais on est vraiment. On se voit en dehors et il y a vraiment une alchimie. Effectivement, c'est pas juste. On se pose dans le studio et on fait semblant. Personne fait semblant en fait. Ce qu'on raconte. Moi, quand je tisse des histoires. Évidemment, je caricature un peu, je grossis, je force le trait, mais cela dit, les choses sont vraiment plus ou moins arrivées dans notre open space ou dans notre déjeuner à midi. Enfin bref, j'essaie de raconter quelque chose qui soit véridique, quoi.
Alors c'est vrai que toi, t'adores travailler en équipe, hein, ça on le sent. D'ailleurs, dans ton style d'écriture aussi. Mais ce que t'arrives à faire, c'est pas se faire justement de l'entre-soi, parce que tu parles énormément de ceux qui sont autour de la table, mais l'auditeur est toujours concerné.
Alors ça, c'est effectivement, ça c'est le but, mais ça c'est le but, c'est que les gens soient que l'auditeur ait l'impression d'être de faire partie de cette bande ou de nous connaître. En fait, ils sont là tous les jours, ils connaissent les traits de caractère des uns et des autres, et il y a peut-être des gens qui aiment pas, mais en tout cas parmi ceux qui écoutent. Et les retours qu'on a, c'est que les gens ont l'impression de faire partie de cette bande, en fait, et que ils ont l'impression de nous connaître, en fait. Moi, par exemple, il y a souvent des gens dans la rue qui m'interpellent souvent, il y a des gens qui m'interpellent parfois dans la rue et qui me disent des choses que moi-même j'ai oublié de l'émission. Ils me font une blague sur un truc qui s'est passé dans l'émission, que moi j'ai déjà oublié parce que je prépare celle d'après, et je mets quelques secondes pour percuter. Je dis oui, je lui dirai, parce qu'il me donne des messages à passer à Quentin, Manon, etc. Enfin, j'essaie de créer ça, effectivement. Après, je suis comme ça dans la vie, hein. Dans l'open space, je fais les mêmes blagues ou les mêmes... j'essaie d'être assez authentique, quoi.
Alors, tu travailles avec des auteurs, comment tu fais? Parce que t'as un style, un verbe qui est propre à toi. Alors, comment tu fais pour bosser justement en équipe?
C'est un peu mon problème. Enfin, c'est peut-être ma force et mon problème, c'est que j'ai eu travaillé avec des auteurs il y a très longtemps, quand j'étais à l'époque où je faisais 13 chroniques par semaine, des auteurs qui sont devenus des amis, mais qui n'ont jamais été des auteurs au sens, j'ai jamais pris un texte qu'on m'a donné ou même des blocs de texte et je les ai jamais pris tel quel. Je n'y arrive pas en fait, je le dis pas du tout pour me vanter, je le dis comme une faiblesse parce que à mon avis les plus grands dans ce métier, ceux qui font ça vraiment depuis le plus longtemps, et ils arrivent à prendre des auteurs et ils arrivent à tout de suite s'approprier leur texte. Moi, j'y arrive pas du tout, en fait. Souvent, ça me fait perdre du temps. Si j'ai des auteurs, ça me fait perdre du temps parce que je reprends, je refais tout. Donc, je préfère être tout seul, même si c'est parfois dur, mais je préfère être seul. J'ai l'impression de gagner du temps, ce qui est certainement faux. C'est juste que j'ai pas trouvé, disons, l'auteur ou les auteurs qui me conviendraient parfaitement, je pense.
Parce que nous, on est impressionné par justement la quantité de travail quand on écoute ton émission. Zoom Zoom Zen, c'est une écriture constante, c'est une heure d'émission scriptée, enfin, c'est un boulot énorme, et t'es seul donc à la rédaction, quoi.
Alors, attention, je suis pas seul à la rédaction, je suis seul à la rédaction de tout ce qui est humoristique, ou humeur pure. Cyril Lacarrière, donc mon rédac chef, lui, il me prépare une trame, on a une espèce de, ce qu'on appelle la matrice de l'émission, tous les jours, donc elle est remise à zéro, avec juste... on a les éléments de conducteur, et Cyril, lui, qui a par exemple parlé avec l'invité avant, ce que moi je n'ai pas fait, il prépare, on a aussi des attachés de production qui nous préparent des petites fiches, lui, il travaille avec elle, et il me fait déjà une trame avec, dedans, il y a son doux assort, ce qui fait que son doux assort, c'est la chronique où il explique d'où vient le mot ou l'expression dont on parle, ce qui me donne déjà une idée du thème, et ensuite, il remplit les parties, toc 1, toc 2, toc 3, il remplit avec déjà des questions, il me met déjà des questions qui sont là, j'ai une pré-interview à chaque fois, j'ai une ossature. Moi, je viens sur cette ossature, faire toute l'intro et écrire toutes les transitions jusqu'au lancement de disque. Enfin, tu vois ce que je fais. Ça, effectivement, je le fais tout seul. Mais je peux pas dire que j'écris tout seul. Il y a des gens qui travaillent et qui font toute la partie journalistique autour de moi, oui.
Alors, sur ta chronique aussi, c'est impressionnant, sur ta chronique du matin, la fluidité dans la façon dont toi, tu donnes le texte et que les éléments sonores sont enchaînés, t'as toujours le même réal ou
Alors non, et ça, c'est vraiment miraculeux parce que j'avais très peur. C'est pour ça que j'étais... Parce qu'à Europe 1, j'ai toujours eu le même réal, Philippe Amardet, qui est fabuleux, et qui était mon réal à Europe 1, qui me connaît par cœur, donc... Avec lui, j'étais très sûr. Et les rares fois où il avait été remplacé, souvent il y a eu des pépins sur le, ne serait-ce que le rythme. Bon, il y a eu pire. Il y a eu des gens, les sons ne partent pas. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais des pépins qui font que le son part une demi-seconde trop tard, on l'attend et ça ne va pas. Moi, on peut pas attendre le son en fait. C'est vraiment, il doit me répondre. Donc non, j'avais peur de ça. Mais une fois de plus, Yann Chouquet m'a dit tu vas voir à Inter, on a les meilleurs réals. Et je dois dire que il y a vraiment eu une fois un problème qui était lié à la machine et pas du tout à la personne qui réalisait un matin sur Inter. Mais sinon, il y a en 200 chroniques, je sais pas combien, il y a vraiment aucun problème. Et les réalisateurs tournent à Inter. C'est sur la matinale en tout cas, ils font une semaine. C'est un réalisateur par semaine. Donc en gros, il y a 4-5 réalisateurs qui tournent. Il y a jamais aucun problème. Non, les mecs sont vraiment vraiment pros.
Alors pour comprendre un petit peu ta construction et pourquoi t'as une passion comme ça de l'écriture, étant jeune, t'étais fan de De Caunes, c'est ça, et de sa façon de faire.
Ah, tout à fait, j'étais fan de De Caunes et de Chalumeau qui écrivait ses textes à nulle part ailleurs. Ben, je regardais avec mon père, on regardait ça le soir, je comprenais pas toujours tout, mais je sentais qu'il se passait un truc et puis... Je goûtais effectivement l'écriture derrière c'est lui qui m'a donné l'idée qu'on pouvait peut-être en faire un métier ou en tout cas que c'était un exercice qui pouvait être rémunéré et donc voilà comment ça s'est fait. Mais tout ça c'est lié aussi à, il n'y a pas que De Caunes, parce qu'il y a aussi Guy Carlier que j'écoutais pour le coup sur Inter, toujours avec mon papa, et ça m'a vraiment 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 énormément influencé. Enfin, aujourd'hui, si je voyais un psy, je pense que, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, parce que si j'ai fait ça aujourd'hui, si je suis allé dans cette direction-là, c'est clairement à cause de personnes comme De Caunes. Je l'ai jamais vraiment rencontré, mais Guy Carlier, j'ai bossé avec lui, je l'ai même embauché dans ma première émission. Donc, oui, c'est sûr que j'avais peut-être envie de boucler la boucle quand je l'ai pris. C'est des gens qui m'ont vraiment beaucoup influencé, qui m'ont montré la voie. C'est sûr que, avoir écouté la radio à cette époque-là, ça m'a donné envie de la faire.
Oui, d'après ce que j'ai compris, donc on écoutait la radio à la maison. Donc
ton papa écoutait. On écoutait beaucoup la radio. Ouais, mon père était friand de radio, ma mère aussi d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir avec mon père dans la voiture beaucoup d'écouter la radio. Effectivement, ouais, on était un foyer comme ça, pas mal branché sur Inter, mais pas que, je crois, parce que c'est aussi parfois sur Europe. Mais les souvenirs sont flous.
Et les fans de France Inter auront noté que tu as remplacé donc Antoine De Caunes quand t'es. Arrivé sur Inter.
Oui, ça c'est marrant parce que j'y ai pas pensé en fait. Sur le moment, j'étais dans la peur de partir d'Europe 1, la négociation et tout ça. J'ai pas réfléchi à ça. Oui, c'est vrai, c'est fou. J'ai remplacé De Caunes sur Inter. Oui, c'est vrai. J'aurais jamais pensé.
En fin de saison dernière sur Inter, on annonçait la fin de la quotidienne de Charline. Et du coup, on se demandait si toi t'allais prendre 2 heures d'antenne ou décaler ta tranche. Ça a été une discussion, ça, avec la direction?
Ah oui, c'était une période où il y a eu beaucoup de discussions, mais il n'y a pas eu, c'est des trucs qui sont sortis dans la presse. Enfin, moi, j'ai toujours dit que, déjà, j'étais venu, pour moi, déjà, moi, je suis suisse, à la base. Donc, un changement à la fois, quoi. La saison d'avant, j'ai quitté Europe 1, chez qui j'étais depuis 14 ans. Pour moi, c'était un saut dans le vide incroyable. Donc, je venais d'avoir ma fille à ce moment-là. Enfin, c'était le pire moment pour bouger et j'ai bougé. Moi vraiment ma priorité c'est d'installer une émission qui en plus a la chance d'avoir rencontré son public tout de suite. Ça je sais que c'est précieux, il n'est pas question de en radio, je pense enfin, c'est important d'installer une émission dans le temps au même endroit. Je pense que il faut pas chercher forcément à avoir plus d'auditeurs ou un horaire encore mieux exposé. Moi je suis vraiment super heureux à 16h, je pense que toute l'équipe qui bosse avec moi aussi, et c'est pas en une saison qu'on fait ses preuves, il faut faire plusieurs saisons comme ça. Donc voilà, je me suis dit que c'était pour moi, ça a jamais été une question de changer d'horaire, c'est sûr.
Oui, on sent que t'aimes bien travailler avec ton équipe, être installé et faire un travail de fond, faire confiance à ta direction. C'est dans cet état d'esprit là que tu veux avancer.
Ah ben moi, je suis quelqu'un de toute façon qui doute énormément de moi dans la vie. Je doute de pas mal de choses. Donc oui, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux gens qui ont auparavant pris des bonnes décisions. Donc j'ai tendance à les croire. D'autant que moi, je n'ai pas de, comme t'as compris, je prétends pas avoir une vision des médias ou de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il faut pas faire. Voilà, je suis pas du tout dans cette optique-là. Donc moi, j'essaie de faire mon truc de manière assez artisanale finalement, et j'essaie de le faire bien, j'essaie de délivrer un bon produit. Mais au-delà, je prétends pas avoir de vision stratégique. Donc si tu veux, je me laisse relativement porter. C'est vrai.
Alors tu le disais à la maison, ça écoutait France Inter, Europe 1. J'ai pas entendu RTL parce que je voulais évoquer un petit peu le cas. C'est toujours rigolo d'en parler des grosses têtes, parce que on en parlait dans l'équipe du podcast. Nous, on trouve que tu as un style entre Ruquier et Bouvard. Donc
entre Ruquier et Bouvard.
Ouais.
Ah oui. Bah, écoute, alors j'ai écouté les grosses têtes ça quand j'étais plus petit. Donc là, j'ai écouté les grosses têtes dans une écoute qui était, comment dire, parce que là, je comprenais vraiment pas grand-chose quand même, mais j'entendais mon père écoutait aussi les grosses têtes. Mon père écoutait France Inter le matin et RTL l'après-midi. Donc quand on revenait de l'école, il y avait les grosses têtes, effectivement. Donc ça a peut-être aussi déclenché quelque chose en moi, mais en revanche, plus grand, à l'âge, même à l'adolescence, j'écoutais plus les grosses têtes. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté les grosses têtes. C'est vrai que tu me racontes à quoi ça ressemble.
Donc ça serait pas ton rêve de prendre la tête de l'émission.
Oh là là, mais t'imagines que Bouvard est toujours vivant, rassure-moi. Oui, il est toujours vivant. Imagine s'il apprend déjà qu'il est dégoûté que Ruquier ait pris la suite.
Si en plus, il est pas au courant.
C'est moi qui prends la suite. Hein, je pense que là, on le tuerait. Non, je ferais pas ça à Philippe.
Donc côté projet, bah t'es bien installé sur Inter, donc c'est nickel. Ouais. Est-ce que t'as d'autres projets dans l'écriture ou à la télévision?
Bah, j'en avais, mais l'été dernier j'ai eu une belle proposition. Mais je peux pas en parler puisque c'est passé, mais j'ai été obligé. Ça a été compliqué parce que c'est toujours quand tu fais plein de trucs qu'on te propose plein de trucs. Et non, j'ai moi mon rêve ultime toujours, même si je l'ai un peu fait déjà, c'est d'écrire pour des fictions. Et j'avais une grosse proposition de gens qui voulaient que je fasse à la fois de la télé, un truc en télé, et de l'écriture de fiction. Et ça, malheureusement, j'ai eu beau réfléchir, je me suis un peu cassé la tête cet été là-dessus, mais c'était impossible. Il aurait fallu plusieurs auteurs déjà. Et comme je te l'ai dit, c'est ma limite, c'est mon principal défaut. Je pense que je n'arrive pas à déléguer. J'ai trop peur que les auteurs ne suivent pas, et que donc que je me retrouve dans une spirale à travailler la nuit en plus du jour et du petit matin. Donc j'ai dû décliner. Donc pour l'instant, non, je n'ai pas de scoop. Je suis 100%, 100% radio, 100% France Inter.
Eh ben, ça nous va parfaitement, et j'en suis sûr que tu auras d'autres propositions de fiction, évidemment, parce qu'on connaît tous ton talent d'écriture. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver le matin et l'après-midi, et en podcast aussi, parce que les podcasts marchent très bien en plus.
Ouais, les podcasts, n'oublions pas les podcasts.
Donc, merci à toi, Mathieu, et puis au plaisir de te retrouver à nouveau dans le podcast des Ondes Vocast. À bientôt.
Merci beaucoup, Rémi. Ciao.
Des Ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast.
Des Ondes Vocast, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audoux au micro. Merci à nos invités, Mathieu Noël, François Carrier et Benoît Marin-Pouy. Merci à Rémi Julien, comme chaque mois, pour l'aide pour la confection de ce podcast. Si vous l'aimez, faites du bruit, parlez-en autour de vous. Plus nous sommes nombreux et plus nous pouvons vous dégoter les meilleures interviews et les meilleures infos. Alors vraiment, faites circuler. Et rendez-vous donc début décembre. Ciao.
Des Ondes Vocast.